Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous êtes sur la zone payante. Merci de vous brancher avec nous toutes les semaines. Jean-Nicolas Gagné en compagnie de Stéphane Cadorette. Steph, on est rendu à la section questions du public. On va commencer avec une question de Magali. Anthony Auclair, elle se demande si c'est un bon fit avec les Titans du Tennessee.
Totalement.
Anthony a signé cette semaine.
Oui, Anthony Auclair, c'est le fun. Il avait été libéré le 30 août par les Texans, on s'en souvient. On lui a même parlé comme invité spécial plus tôt cette saison. On avait parlé à son agent aussi qui disait que les lignes demeuraient ouvertes. Puis écoute, ils nous ont pas bullshité. On est forcé d'admettre que c'était vrai. Là, écoute, il signe avec les Titans du Tennessee pour l'instant, je tiens à le préciser, sur le practice squad, donc l'équipe de réserve. Mais dans la NFL d'aujourd'hui, c'est très, très, très fréquent que des joueurs de l'équipe de réserve soient habillés sur l'alignement régulier pour les matchs. Donc, je serais pas étonné du tout qu'ils jouent dès en fin de semaine contre les Chiefs. Pas du tout, parce qu'on va vouloir courir le ballon. Puis, il y a rien de mieux qu'un ailier rapproché qui est parmi les meilleurs de sa profession pour bloquer. Auclair, moi je trouve, pour répondre à la question de Magali, c'est un très bon fit. Écoute, tu t'en vas dans une équipe qui mise tellement sur le jeu au sol, avec un porteur de ballon aguerri en Derrick Henry, c'est sûr qu'Auclair devrait voir du terrain. Puis, écoute, il nous avait parlé, Jean-Nic, tu te souviens, que son salaire était garanti, qu'il n'allait pas signer n'importe où avec le premier venu. Je pense que s'il est sorti de sa convalescence, d'une part, c'est qu'il est prêt à 100% physiquement. Il est remis de sa blessure au genou subie au camp d'entraînement. Puis d'autre part, c'est qu'on lui a promis une bonne situation. T'sais, moi, j'ai parlé à son agent après l'acquisition par les Titans, puis il n'a pas voulu se compromettre là-dessus. Il n'a pas voulu me donner de détails, mais je suis capable de lire entre les lignes. Là, Anthony nous l'avait dit lui-même. Si c'est une situation où je suis pas convaincu que je vais avoir du temps de jeu, ben écoute...
Je vais rester chez nous.
Exact. Il nous l'avait dit là, à peu près comme ça. Là.
Donc, est-ce qu'on a une idée du contrat qui est signé? C'est un minimum vétéran?
Non, ça, j'ai pas de détails là-dessus. Mais chose certaine, pour terminer là, là-dessus, je pense que Anthony Auclair, c'est une autre occasion aussi d'élargir son réseau de contacts. Là, t'es rendu à 3 équipes qui t'ont vu, tu as du tape avec 3 formations différentes, des systèmes différents. Ça peut juste être bon pour la suite de sa carrière. Là,
cette année, puis bloqué pour Derrick Henry, ça paraît bien dans un CV.
Ben, tu sais, quand tu as mis 2-3 belles entreprises dans ton CV, tu t'en vas à ton entrevue en confiance. Là, lui, quand il va dire « j'ai ouvert la voie à Derrick Henry », il n'y a pas grand monde qui va dire « c'est qui ça, Derrick Henry
?» C'est ça, exact. Éric Hébert nous pose la question. Qu'est-ce qui explique les insuccès au sol des porteurs de ballon des Bills? Est-ce que c'est 1. Le choix des jeux, 2. L'absence de créativité de David Singletary ou 3. La ligne à l'attaque qui n'est pas efficace dans cette facette?
Oh, c'est une bonne question. C'est sûr qu'il n'y a pas de porteur de ballon qui sort du lot à Buffalo. Singletary est quand même efficace, moi je dois dire. Là, tu le regardes jouer. Il y a souvent une moyenne d'au-dessus de 4.5, même 5 verges par portée là, assez régulièrement, mais c'est dur de trouver un rythme quand tu es porteur de ballon puis que l'attaque est autant axée sur le jeu aérien. Je pense que Singletary, sauf erreur, faudrait vérifier, là, mais je suis à peu près convaincu de mon coup que la plus grosse charge de travail qu'il y a eu cette saison, c'est 17 courses. T'sais, c'est pas évident de produire à un rythme élevé, soutenu, quand on te confie pas plus le ballon. Cook, j'en parlais un peu plus tôt, ben, il est utilisé très sporadiquement comme recrue. Donc, c'est ça. Je pense que Singletary, ce sera jamais un porteur de ballon dominant. C'est quelque chose que les Bills vont probablement adresser au prochain repêchage. Mais encore là, c'est une équipe qui mise tellement sur le jeu aérien. Puis
sur Josh Allen, là, tu sais.
Et voilà où je m'en allais.
C'est difficile de trouver le rythme quand tu es un running back avec Josh Allen.
Puis ton plus gros porteur de ballon, ben, c'est qui? C'est Josh Allen. C'est lui le gros bonhomme qui s'élance puis qui fait frémir les secondeurs puis les demi de coin là, quand il s'en va dans le champ. Donc, c'est ça. Je dis pas que les Bills auront jamais un bon porteur de ballon, mais je pense qu'en ce moment, ils sont satisfaits de ce qu'ils ont sous la main. Ce sera jamais une grande force, mais tu sais, un gars comme Singletary fait le minimum qu'on lui demande.
Jérôme Jacques nous pose la question. Qu'est-ce qui se passe avec les Packers? Pourquoi l'équipe ne s'est pas améliorée à la position de receveur de passe alors que Rodgers en est à ses derniers milles avec l'équipe? C'est vrai qu'ils n'ont rien fait fait des années qu'ils font rien pour la position de receveur, mais encore moins cette semaine.
Ça les rattrape, en fait, là, cette année. Puis, écoute, peut-être qu'ils se sont dit que Dobbs est en train de se développer, il a réalisé quelques gros jeux dernièrement, mais c'est drôle, on ne sent pas l'urgence. Là. On ne sent pas du tout l'urgence parce que Dobbs, ça se peut qu'il soit très bon. Là. C'est pas du tout une surprise s'il s'élève comme on pense qu'il devait s'élever, mais ça se peut que ça prenne un an et demi aussi. Là. Puis les Packers n'ont pas un an et demi devant eux. Il faut qu'ils gagnent maintenant, eux autres. Donc, ça, moi, j'ai trouvé ça très surprenant, décevant de leur côté, considérant que les équipes autour d'eux se sont améliorées. Là. Donc, est-ce qu'on a essayé et ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on s'est dit les receveurs qui sont disponibles sur le marché, que ce soit des Brandon Cooks, des Chase Claypool, ça n'améliore pas nécessairement notre profil au poste de receveur? Je ne sais pas, ça a été quoi leur conclusion. Je ne sais pas c'est quoi leur raisonnement, mais chose certaine, d'un point de vue extérieur, c'est très décevant de voir les Packers rester les
bons. Parce qu'on n'a pas entendu grand-chose couler non plus. Ils n'ont pas l'air à avoir brassé la cabane.
C'est pas une équipe, traditionnellement, exact. Tu regardes ça, qui bouge énormément, les Packers, que ce soit sur le marché des joueurs autonomes ou des transactions. Mais je pensais que le fait que la situation soit aussi désespérée, là, tu sais, t'es rendu à 3 et 5, à la moitié de la saison qui est passée, puis ça n'a pas bien été. Je m'attendais à des mouvements.
Fait que t'es comme Jérôme, là. Tu te l'expliques mal, mettons.
Très mal.
Jean Bourbeau, lui, nous pose la question, est-ce que Pete Carroll est l'entraîneur de l'année jusqu'à maintenant dans la NFL?
Oui, Jean Bourbeau, puis j'ajouterais notre fidèle auditeur Robin aussi, qui nous a posé la même question. C'est drôle, les deux sont arrivés avec le même sujet, puis moi, je leur répondrais aux deux qu'il y a plusieurs bons candidats cette année, j'y reviendrai dans 2 secondes, mais moi, c'est mon premier choix, Pete Carroll.
Ben non, sérieux?
Oui. C'est mon premier choix. C'est une équipe qui devait aller nulle part. Moi, si je t'avais dit, Jean-Nic, avant saison, fais-moi ton top 3 des équipes de sous-sol, de fond de cave, de fond de ruelle, de ce que tu voudras, pour aller chercher le premier choix au total au prochain repêchage, je pense que les Seahawks étaient là-dedans. Ils étaient dans le lot de beaucoup de monde qui les voyait vraiment sous-performer. Il y a convaincu ses joueurs que tout était possible malgré le départ de Russell Wilson et de Bobby Wagner. On l'oublie souvent là, que c'était un leader ça dans l'équipe. Le draft qui a mené, le repêchage avec John Schneider a été rien de moins qu'extraordinaire. Ça a produit déjà 6 joueurs partants. Imagine, juste pour ça, il mérite des votes. Puis, tu sais, Pete Carroll... Il y en a d'autres bons candidats. Moi, j'irais dans les mentions honorables, si tu me permets. Là, j'irais aussi avec Brian Daboll avec les Giants, Nick Sirianni avec les Eagles. Là, t'sais, on a souvent tendance à dire l'entraîneur de l'année part d'une équipe poche qui devient bonne. C'est le réflexe. Sirianni, ce qui joue contre lui, c'est que les Eagles avaient été déjà en progrès l'an passé, mais quand même, il fait tout un boulot. Puis j'ajouterais Robert Saleh avec les Jets. Honnêtement, c'est un candidat sérieux aussi. Mais mon vote va à Pete Carroll. Puis il y avait un complément de question de Robin, je réponds en 1 seconde. Il demande si Pete Carroll devait gagner le titre d'entraîneur de l'année à la fin de la saison, il y a 70 ans, est-ce que ce serait le plus vieux de l'histoire à réussir cet exploit-là? Mes recherches m'ont amené à trouver que George Halas, le légendaire Papa Bear, le coach des Bears pendant à peu près 108 ans, avait eu cet honneur-là en 1965, à l'âge de 70 ans lui aussi. Donc, pour répondre à la question de nos deux fidèles auditeurs, voilà.
Un autre fidèle auditeur, Nicolas, nous pose la question, est-ce que la QV de QB de 2021 a été surévaluée? Parce qu'à date, aucun des QB ne semble montrer qu'ils sont l'avenir de leur équipe.
Bon, les QB 2021, là, pour les nommer rapidement, Trevor Lawrence, premier overall, évidemment, avec les Jaguars. Zach Wilson, deuxième avec les Jets. Trey Lance, troisième avec les Niners. On ne voyait pas souvent là, une QV avec trois carrières choisies dans les trois premiers rangs. Là, c'est une rareté. Puis il y avait eu après ça Mac Jones qui s'était ajouté avec les Pats en 15e. Là, ça serait facile d'avoir un hot take puis de dire, écoute, là, c'est pourri, c'est une cuvée surévaluée, puis jeter ça aux poubelles. Moi, tu me connais, tu commences à me connaître, Jean-Nic, ça fait quelques années qu'on fait ça ensemble.
T'es pas dans les extrêmes.
Je suis un apôtre de la patience aussi. Je trouve que c'est décevant. Je suis le premier à le dire. Moi, j'ai écrit une chronique en début de saison pour dire qu'il faudrait commencer à voir des signes de Trevor Lawrence, qui a plus de bas que de haut jusqu'à maintenant, puis j'en démords pas, à date. Il répond pas aux attentes. Zach Wilson non plus. Trey Lance, ben là, c'est une autre histoire, là. Écoute, il y a quoi? Il y a deux départs dans la NFL. On peut pas se prononcer. Mac Jones, après une première moitié de saison recrue fort convaincante, c'est beaucoup plus difficile depuis, là. Tu sais, ça fait une saison et demie que c'est vraiment pas facile. Donc, faut se garder un jugement, je pense. C'est encore très jeune. Mais c'est certain que, tu sais, quand tu passes après des corps arrière qui ont pogné vite, comme des Justin Herbert, des Joe Burrow, ça donne une mauvaise impression. Mais honnêtement, moi, je suis pas prêt à lancer la serviette tout de suite.
Tommy nous pose la question, pouvons-nous vraiment espérer une équipe de NFL au Canada un jour? Si oui, expansion, fusion ou déménagement? Un rêveur, comme nous tous. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
Écoute, si ça arrivait un jour, moi, je pense que ça n'a pas le choix d'être Toronto, là. Je voudrais bien rêver à Montréal, mais je le vois juste pas comment. Là. Écoute, là, c'est une affaire de plusieurs milliards de dollars. On parle, là, regarde, en ce moment, la dernière franchise qui a été vendue, c'est les Broncos, puis je pense, sauf erreur, que c'est 4,6 milliards. Là, les Commanders qui vont être à vendre, la nouvelle est sortie dans les dernières heures. Dan Snyder qui serait finalement prêt à trouver un acheteur. On parle d'une équipe qui est évaluée à 5,6 milliards. Oh, c'est des gros bidous. T'as toujours pas de stade digne de ce nom pour une équipe de la NFL à Montréal. Donc, Toronto, peut-être, tu sais, je pense.
Mais Toronto, ils en ont eu une fenêtre là, dans les dernières années. Ils en ont eu une années, fenêtre, puis ils l'ont pas prise.
Ben, la NFL cruisait Toronto un peu. Tu te rappelles, il y avait un match des Bills à chaque année à Toronto. Puis, je ne sais pas à quel point les Bills seraient d'accord avec un move à Toronto, parce que je parle pas d'un déménagement à Toronto, mais admettons qu'il y aurait une expansion un jour, parce que les Bills déménageront pas à Toronto. Ça, c'est fini. C'est fini. Mais les Bills, je me rappelle d'une entrevue du propriétaire Terry Pegula, qui était là depuis pas longtemps, dans les premières années qu'il est arrivé. Lui, il avait dit que 18 à 20% de sa foule à chaque match, c'était des gens qui provenaient de l'Ontario.
Puis d'après moi, c'est conservateur.
C'est énorme le nombre de Canadiens là-bas. Donc, ça serait tout un tour de force amener une équipe à Toronto puis rentrer ça dans la gorge des Bills. Honnêtement, je suis pas sûr que ça va se faire, mais tout ce que je dis, je pense pas que ça va se faire un jour, une équipe au Canada. Si ça se fait, je pense que ça n'a pas le choix d'être Toronto.
Après moi, il va y avoir une équipe au Mexique ou en Europe avant.
À Londres, ça, c'est sûr qu'ils regardent beaucoup de ce côté-là, mais là, c'est des défis logistiques pas mal.
OK, merci, Steph, pour ces questions et ces réponses, surtout. Et puis, on vous invite toujours à nous écrire, si vous le souhaitez. Vous pouvez nous interpeller sur les médias sociaux, sur Twitter aussi, plus facilement. Sinon, vous pouvez nous écrire à nos précieux conseils de fantasy, le groupe Facebook sur Facebook. Ou sinon, Steph, ils peuvent nous écrire à quelle adresse?
La zone payante à commercial québecormedia.com. Donc, on prend tous les messages, là, comme tu disais, là, peu importe votre plateforme préférée, on va y aller.
C'est la semaine 9 d'NFL, c'est des prédictions tout de suite après la pause. Bougez pas.
I got news for you, buddy. We're going to win the game, I guarantee you.